Bonne journée à l'écoute de VOA.
Au micro, Idrissa Seloudia. Bonjour, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Au Mali, décès de l'homme accusé d'avoir tenté le 20 juillet d'assassiner le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'homme était depuis aux mains des services de sécurité maliens. Nous y reviendrons avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danioko. Au Nigeria, un petit groupe d'élèves enlevés du lycée Bethel Baptiste dans l'état de Kaduna ont été libérés par leur ravisseur. Gilbert Tamba à Abuja fera le point. Dernière minute, le chef du Parlement tunisien, Ghanouchi, Rached Ghanouchi, en sit-in devant la chambre bloquée par l'armée. Le président Kais Saied, engagé depuis des mois dans un bras de fer avec le principal parti parlementaire Ennahda, qui a dénoncé un coup d'État, a gelé hier les travaux du Parlement et pris en main le pouvoir exécutif après une journée de manifestation en pleine crise sanitaire. L'Algérie, un des soutiens historiques des Palestiniens, a condamné hier la décision de l'Union africaine d'accorder jeudi à Israël le statut d'observateur à l'organisation panafricaine. Des centaines de touristes israéliens sont arrivés hier à Marrakech à bord du premier avion commercial direct venant d'Israël, a constaté l'AFP 7 mois après le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et l'État hébreu. En Somalie, le démarrage des élections prévues ce dimanche et au centre d'une crise politique qui agite depuis des mois le pays a été retardé pour des raisons techniques selon des sources officielles interrogées par l'AFP. Il s'agit d'un long cycle électoral qui débute avec l'élection du Sénat et doit s'achever le 10 octobre avec celle du président. La région éthiopienne de l'Amara a appelé hier tous ses citoyens armés à se mobiliser contre les rebelles du Tigré voisin où la guerre fait rage, évoquant une campagne de survie pour la province. Coronavirus, les autorités algériennes ont drastiquement durci les mesures de lutte contre le COVID-19 et promis d'accélérer la vaccination face à la recrudescence des contaminations provoquées par la propagation rapide du variant Delta plus contagieux. En revanche, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé hier soir une levée de la plupart des restrictions anti-Covid, dont l'interdiction des ventes d'alcool, assurant que le pays avait largement passé le pic de la troisième vague de l'épidémie. Au forceps, selon plusieurs élus, le pass sanitaire a été adopté définitivement hier soir en France, députés et sénateurs étant parvenus à un compromis sur ce texte controversé au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation de ses opposants. Et en Chine, 76 nouveaux malades du Covid ont été annoncés, un record journalier depuis janvier. Les États-Unis vont continuer leurs frappes aériennes contre les talibans si ceux-ci poursuivent l'offensive qu'ils mènent depuis début mai en Afghanistan, a averti hier à Kaboul le chef des opérations militaires américaines dans ce pays. Par ailleurs, quelques 22 000 familles ont fui leur domicile en raison des combats dans les faubourgs de Kandahar, la grande ville du sud berceau des talibans. Les relations entre les États-Unis et la Chine sont dans une impasse et Washington doit cesser de diaboliser Pékin, a lancé ce lundi le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Xie Feng, lors de la première visite en Chine de la secrétaire d'État adjointe Wendy Sherman. L'est de la Chine a été balayé dimanche par le typhon Infa qui a touché terre hier à la mi-journée, au moment où le nettoyage des dégâts dus aux inondations dévastatrices d'il y a quelques jours battait son plein sur une partie du territoire. Et en Inde, le bilan des inondations et des glissements de terrain provoqués par les fortes pluies de mousson s'est alourdi à 159 morts hier, selon les autorités. Les sauveteurs recherchant toujours des dizaines de disparus. Pendant ce temps, les pluies torrentielles orageuses sur le sud de l'Angleterre ont entraîné hier, en fin de journée, des inondations jusque dans les rues de Londres où les transports ont été perturbés. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie, Idrissa Seloudia, Restez à l'écoute pour la suite de nos informations. La suite de nos informations. Au Mali, c'est aux environs de 22 heures hier que le gouvernement a publié un communiqué annonçant le décès de l'agresseur du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Si l'on ne sait pas de quoi cet agresseur est mort, le gouvernement rassure quant à la poursuite des enquêtes déjà ouvertes au niveau du parquet du tribunal de la commune 2 du district de Bamako. Davantage de détails avec notre correspondant sur place, Mohamed Dadjoko.
Le mardi 20 juillet dernier, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a fait l'objet d'une attaque au couteau au sein de la grande mosquée de Bamako. C'était à l'occasion de la fête de Tabaski. Appréhendé, l'auteur a été amené par des militaires et filmé par des téléphones. Une enquête a ensuite été ouverte par le parquet du tribunal de la commune 2 du district de Bamako. C'est dans l'attente des résultats de cette enquête qui devait éclairer la lanterne des Maliens sur l'identité de l'agresseur et ses probables connexions que le gouvernement, à travers un communiqué, annonce la mort de l'agresseur à l'hôpital du Point G après avoir passé par le CHU Gabriel Touré. Si le communiqué n'indique pas les causes du décès, il annonce tout de même qu'une autopsie a été ordonnée pour les déterminer. Le gouvernement affirme que les premiers indices collectés et les informations recueillies démontrent qu'il ne s'agit pas d'un acte isolé et rassure que ce décès ne fera pas obstacle à la poursuite de l'enquête. Enfin, le gouvernement rassure que l'opinion sera tenue informée des résultats de l'autopsie et des suites des investigations. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Le Bénin est en deuil. L'ex-première dame Rosine Viera Soglo n'est plus. L'ancienne députée et doyenne d'âge de l'Assemblée nationale est décédée hier à l'âge de 87 ans. De Cotonou, notre correspondante Ginette Fleur a Dandé.
La nouvelle du décès de Rosine Viera Soglo, épouse de l'ancien président Nicéphore Soglo, a circulé comme une rumeur sur les réseaux sociaux avant d'être confirmée par ses proches. Selon les informations reçues par les médias locaux, celle qui était surnommée la Dame de Fer est décédée après une courte hospitalisation. Le Bénin perd ainsi l'une des femmes ayant marqué le paysage politique au lendemain de la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 90. Combattante acharnée pour ses idées, Rosine Viera Soglo a créé le parti La Renaissance du Bénin qui lui a permis de se faire élire députée de 1999 jusqu'à 2019 où elle s'est retirée de la vie politique pour des raisons de santé. Avant de se retirer de la vie politique, elle a dénoncé avec la vivacité qu'on lui connaissait l'achat de conscience qui, selon ses dits, empêchait les députés d'être de vrais élus du peuple.
Que cette façon de parler de notre pays, nous l'avons élu, c'est comme ça qu'il nous traite.
Ce que j'ai dit, je n'ai fait que répéter des paroles du chef de l'État. Gardons-nous de ne pas avoir des dérives et terminons le quinquennat correctement.
L'ex-première dame est décédée en l'absence de son époux, l'ancien président Nicéphore Soglo, évacué en France pour des raisons de santé. Sur sa page Facebook, le président Patrice Talon déclare que les Béninois garderont de Rosine Soglo l'image d'une femme exceptionnelle, engagée, qui aura marqué la vie politique du Bénin durant de longues années. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Au Nigeria, un petit groupe d'élèves enlevés du lycée Bethel Baptiste dans l'état de Kaduna ont été libérés par leurs ravisseurs. Enlevés de leur internat par des bandits le 5 juillet, ils ont recouvré leur liberté après 20 jours de captivité. Le Point avec Gilbert Tamba à Abuja.
On voit dans une vidéo certains des élèves libérés, très épuisés, en train d'être remis à leurs parents. Ils étaient au total 121 enfants enlevés du lycée Baptiste dans l'état de Kaduna. Seulement 28 ont recouvré la liberté. Le nord du pays est en proie à une vague d'enlèvements scolaires perpétrés par des criminels à des fins lucratives. Au moins 136 élèves ont été enlevés d'une école islamique de Tegna dans l'état du Niger fin mai et se trouvent encore entre les mains de leurs ravisseurs. Plus de 1000 élèves ont été enlevés dans des écoles du nord du Nigeria depuis décembre de l'année dernière. Les autorités sont sévèrement critiquées pour leur incapacité à lutter contre l'insécurité généralisée dans le pays, notamment l'aggravation de la crise des enlèvements visant des écoles. Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
En Tunisie, le président Kais Saied a annoncé hier soir qu'il gelait les activités du Parlement. Il a aussi démis de ses fonctions le chef du gouvernement Hichem Mechichi après une journée de manifestation contre les dirigeants tunisiens. Des détails avec Bagassi Koura.
Oui, des klaxons ont retenti dans les rues de Tunis peu après cette annonce. Une annonce qui fait suite à des manifestations dans de nombreuses villes du pays hier dimanche en dépit d'un important déploiement policier pour limiter les déplacements. Les protestateurs ont notamment réclamé la dissolution du Parlement. M. Saied a annoncé cette décision à l'issue d'une réunion d'urgence au palais de Carthage alors que la Tunisie fait face à un pic d'épidémie de coronavirus et à une profonde crise politique opposant M. Saied au principal parti parlementaire ENADA. La constitution ne permet pas la dissolution du Parlement, mais elle permet le gel de ses activités, a-t-il déclaré, s'appuyant sur l'article 80 qui permet ce type de mesure en cas de péril imminent. M. Saied annonce qu'il s'est chargé du pouvoir exécutif avec l'aide du gouvernement qui sera dirigé par un nouveau chef désigné par le président de la République. Il a en outre annoncé lever l'immunité parlementaire des députés. Plusieurs milliers de Tunisiens ont manifesté dimanche contre leurs dirigeants, notamment contre la formation islamiste ENADA. Ils ont notamment crié des slogans hostiles à cette formation et au premier ministre qu'elle soutient, Hichem Mechichi, scandant « Le peuple veut la dissolution du Parlement ».
En sport, la couverture spéciale des Jeux Olympiques avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous, nous débutons cette rubrique spéciale consacrée aux Jeux Olympiques par le point sur les premières médailles décrochées le week-end. Bagassi Koura, fortune diverse pour les Africains lors de ce premier week-end des Jeux.
Oui, la bonne nouvelle vient des Tunisiens. À seulement 18 ans, Ahmed Ayoub Afnaoui a remporté à la surprise générale le 400 mètres nage libre des Jeux Olympiques. Il rejoint ainsi dans l'histoire sportive de la Tunisie son illustre compatriote Oussama Melouli, détenteur de 2 médailles d'or sur les 5 que compte son pays dans l'histoire des JO. Ce dernier entrera en lice pour ses 6e JO le 5 août au 10 km au libre. Une performance d'Ahmed Ayoub Afnaoui saluée par l'Américain Michael Phelps, 23 fois médaille d'or olympique.
Une nage incroyable. Il a battu à peu près de 4 secondes et demie à 5 secondes son record personnel. Donc être capable de nager comme ça et de sortir du couloir 1, le couloir 8, excusez-moi, c'est ce dont je parlais. Je pense à peu près toute la matinée. La différence entre ces Jeux olympiques et ceux du passé, à mon avis, c'est que chaque personne en finale a une chance de gagner une médaille d'or, n'est-ce pas? Peu importe si vous êtes dans la voie numéro 1, la voie 8, la voie 4. Cela n'a pas d'importance. Chaque être humain dans cette finale est proche.
Michael Phelps, 23 fois médaille d'or olympique. Au tennis de table, la Nigériane Edem Ofiong a battu la Hongroise Madaras Dora 4 à 1. L'autre Nigériane, Oshonaike Olufunke, a elle été dominée 1-4 par Liu Huan des États-Unis, tandis que la Camerounaine Hanfu Sara a perdu contre la Bulgare Trifonova Polina 1-4. Du côté des hommes, le Sénégalais Ibrahim Diop s'est incliné 2-4 contre le Singapourien Chu Zheyu Clarence.
Merci, Bagassi. Dans les sports collectifs, en football, la Côte d'Ivoire a tenu tête au Brésil pendant qu'en basketball, les États-Unis ont été surpris par la France. Nani Talani.
En football, la Côte d'Ivoire a tenu tête au Brésil. Score final 0-0. Victorieux de l'Arabie Saoudite 2-1 lors du premier match, un nul suffira aux Ivoiriens pour atteindre les quarts de finale lors du dernier match face à l'Allemagne. De son côté, l'Afrique du Sud a mené 3 fois au score, mais s'est finalement inclinée 4-3 devant la France. Dans le groupe C, l'Argentine a fait plier l'Égypte 1-0. Lors du dernier match de groupe, l'Égypte devra battre l'Australie et espérer que l'Espagne batte l'Argentine afin qu'elle puisse atteindre les quarts de finale. En basketball, les États-Unis ont mal débuté leur campagne, battue par la France 83 à 76. Team USA concède ainsi sa deuxième défaite d'affilée en compétition internationale face aux Bleus après celle en quart de finale du Mondial 2019. Les Américains vont devoir réagir mercredi face à l'Iran, battu elle aussi plus tôt par la République tchèque, 84 à 78 dans le groupe A. Dans la discipline de hockey, les hommes et les femmes d'Afrique du Sud ont commencé leur campagne par des défaites. La Grande-Bretagne a battu les hommes 3-1 dans le groupe B. L'Afrique du Sud a eu une chance de se racheter mais a encore perdu 5-3 aux Pays-Bas dimanche. Les femmes ont aussi été défaites par l'Irlande 2-0.
Merci Nanix. Le fait marquant de ce week-end est nippon. Le japonais Ifumi Abe, déjà double champion olympique de judo, a remporté le titre olympique dans la catégorie des moins de 66 kilos quelques minutes après le sacre de sa sœur Uta Abe chez les moins de 52 kilos. Autre fait marquant, la gymnaste costaricienne Luciana Alvarado a rendu hommage au mouvement Black Lives Matter. Après son enchaînement au sol lors des qualifications, la jeune femme de 18 ans, métisse, a terminé son exercice au sol en s'agenouillant et en levant le poing droit en l'air, le bras gauche derrière le dos, reprenant la posture devenue célèbre dans les manifestations de protestation à travers le monde à la suite du meurtre de l'Américain George Floyd l'année dernière par un policier. C'est la première fois que ce geste hommage au mouvement Black Lives Matter, déjà vu plusieurs fois dans d'autres événements sportifs, apparaît dans une compétition internationale de gymnastique. Au tableau des médailles, la Chine est en tête avec 11 médailles dont 6 en or, suivie du Japon, 6 dont 5 en or. Les États-Unis totalisent 10 médailles dont 4 en or. C'est ici que se referme cette rubrique spéciale consacrée aux Jeux Olympiques.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, les pygmées ont choisi la musique pour sensibiliser sur les droits des populations autochtones constamment bafouées dans le pays par d'autres Congolais. Pour atteindre cet objectif, ils se sont associés avec des musiciens français et s'apprêtent à organiser des concerts musicaux à travers le pays. Notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin, s'est rendu à l'Institut français où ils font leurs répétitions. Voici son reportage.
Allez, va bosser.
Et passons à bien chanter devant le micro.
Vous n'allez pas à mon micro, hein. Voilà.
Chaque jour, les membres du groupe musical Ndima, composé de peuples autochtones, sont en répétition avec quelques musiciens français. Gaston Mutambo, un autochtone qui a parcouru plus de 1000 km des profondeurs de la forêt équatoriale à Brazzaville, espère faire bonne prestation à l'issue de ce mixage.
Nous sommes très heureux de nous retrouver ici avec des amis européens. Ils sont en train de nous montrer leur répertoire et cela nous fait plaisir. Et de notre côté, nous leur montrons aussi notre répertoire. Donc ils chantent ce que ils chantent nos chants et nous aussi chantons les leurs. Donc c'était un moment de joie.
Des sons particuliers du soul, du jazz et parfois du folklore et djengi constituent le nouveau rythme du groupe Ndima. La musicienne française Leila Martial explique l'harmonie et la combinaison obtenue de ce mélange d'instruments de musique.
Alors nous, on est des musiciens qui venons de la musique de jazz, mais le jazz moderne, hein, donc on improvise beaucoup. On essaie de s'adapter et de faire quelque chose de complémentaire. Donc on est en création vraiment, on essaie de créer une musique qui est nouvelle, qui serait la somme de nos deux univers.
Au-delà de la simple musique, le challenge est grand. Serait l'État qui a créé le groupe Ndima depuis 2003 estime que c'est aussi l'occasion de sensibiliser sur les droits des populations autochtones.
C'est pas la distraction, c'est pas le divertissement. Nous sommes en train de défendre une cause. Vous connaissez la situation des autochtones de notre pays. C'est des minorités qui sont marginalisées, traitées de sous-hommes. Ils sont même esclaves. Elles sont esclaves quand je parle de minorités. C'est des esclaves devant tout. Donc, à travers la musique, nous, on voudrait vraiment que les AK se servent de leur voix pour défendre leur cause. C'est pas la distraction, c'est pas le divertissement. Mais nous souhaiterons surtout bénéficier de l'aide du gouvernement, surtout en ce qui concerne la logistique. Parce que pour organiser la tournée au nord, il faudra par exemple des bus.
Le Congo est l'un des rares pays du continent à avoir adopté, en dehors de sa constitution, une loi spécifique sur les populations autochtones. Des dispositions légales qui ignorent encore plusieurs Congolais qui continuent de maltraiter les pygmées. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Dakar a enregistré des pluies, même si les quantités ne sont pas encore trop importantes. Au Sénégal, l'hivernage rime avec apparition des moustiques et de nombreux cas de paludisme. Mais avec la situation sanitaire marquée par la pandémie de COVID-19, les mesures préventives, dont la principale est l'utilisation de moustiquaires imprégnés, sont-elles prises en compte par les populations? Les autorités médicales ne sont-elles pas plus concentrées sur la lutte contre la COVID-19 au détriment de certaines maladies comme le paludisme qui tue également? Élément de réponse avec notre correspondant à Dakar, Sedina Abagué.
Au-delà des inondations en banlieue, l'hivernage à Dakar est marqué par une recrudescence des maladies tropicales, dont la plus récurrente reste le paludisme. Mais aujourd'hui, les campagnes de sensibilisation sont toutes concentrées sur le COVID-19. Malgré tout, les autorités sanitaires assurent que des dispositions sont prises pour que le paludisme ne fasse pas de ravages. Docteur Momodou Lamine Diouf, membre de la cellule de lutte contre le paludisme, rappelle que la moustiquaire imprégnée est la plus efficace des méthodes préventives.
L'OMS le dit et tout le monde l'accepte aujourd'hui, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour protéger les individus et les populations de façon globale contre le paludisme. L'OMS le rappelle si bien que si on réussit à avoir 80% de couverture en moustiquaire imprégné dans les populations, on peut espérer réduire d'au moins 25% donc la charge de mortalité et de morbidité au niveau de nos populations. Donc vous considérez bien que c'est un outil quand même d'une importance capitale qu'aucun pays ne devrait négliger.
Les moustiquaires sont donc essentiels d'après ce chef de famille qui a requis l'anonymat et qui avoue quand même avoir beaucoup de mal à dormir sous une moustiquaire.
C'est forcé, il y a trop de moustiques. C'est la période. En moustiquaire, on ne peut pas dormir. Mais moi, personnellement, si je dors dans une moustiquaire, je perds le sommeil. Mais c'est un mal nécessaire. Il faut le faire pour notre bien.
C'est pareil pour Antasek, une jeune dame qui habite la zone de captage à Grand Yoff. Elle reconnaît que la moustiquaire est indispensable pour bien dormir, mais parfois, elle prend le risque de s'en passer pour être plus à l'aise.
Pour être honnête, des fois, je dors sous une moustiquaire imprégnée, d'autres fois, non. Mais avec l'hivernage et l'invasion des moustiques, sans moustiquaire imprégné, on tombe malade. Donc, même si je refuse parfois de les utiliser, ma mère nous l'impose.
Face au paludisme, il est inutile de prendre des risques. D'après Sadio Dramé, une dame qui habite Guédiouaï dans la banlieue de Dakar, à côté de la bande des Filao, une zone connue pour être le bastion des moustiques.
Avoir la bande de Filao et un contingent de moustiques à côté me suffisent comme motivation pour dormir sous une moustiquaire imprégnée. Toute la famille, on dort en respectant les mesures préventives, surtout qu'en ce moment, on enregistre de plus en plus de cas de paludisme. On parle beaucoup de COVID, mais le paludisme aussi est dangereux et dans certaines zones, elle peut faire autant de dégâts, sinon plus que le COVID. Il faut en plus être conscient et éviter les contacts avec les nombreux moustiques.
La communication de masse qui entoure la pandémie du COVID-19 noie les actions autour du paludisme en cette période hivernale. Cependant, les autorités sanitaires assurent qu'elles ne négligent pas les dangers de cette maladie tropicale et conseillent aux populations d'utiliser les moustiquaires imprégnés. Mais ces dernières sont toujours divisées sur son utilité et son utilisation. Sedina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
C'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Guinée, de nombreuses mères conseillent à leurs filles de pratiquer des méthodes contraceptives, des décisions motivées par le regard de la société et les réactions parfois humiliantes des époux, mais des pratiques qui malheureusement exposent ces adolescentes à des maladies sexuellement transmissibles, nous dit de Conakry notre correspondant Zakaria Camara.
Par exemple, le mois d'août 2020, en implant, on a eu 21 jeunes.
Une statistique qui évolue d'un centre à l'autre. Esther Collier, chargée de la planification familiale,
au centre médical communal de Ratoma.
On a d'abord une salle d'accueil. C'est là-bas qu'on fait la causerie éducative. Maintenant, c'est de là que les femmes vont peut-être choisir personnellement avant de rentrer dans la salle de PF. Il y a toutes les méthodes que le CMC de Ratoma dispose.
Toutes ces filles ont peur de porter une grossesse. Et dans la plupart des cas, c'est la maman qui décide. Catherine Kamanou, célibataire.
Ma maman qui m'a conseillé, elle m'a dit comme je ne suis pas mariée d'abord, pour ne pas que je sois comme certains de mes camarades, d'utiliser les contraceptifs.
Parmi les méthodes utilisées, il y a l'antibale, car c'est ainsi qu'elles appellent l'implant qui leur évite des grossesses non souhaitées. Mais après l'opération, certaines n'hésitent pas à se laisser aller à des rapports non protégés.
Comme on était d'accord, j'avais confiance en lui, donc il n'y avait pas l'idée là qui venait pour l'utilisation des préservatifs.
Cette relation de confiance expose à des risques d'infection, alerte Esther Collier, chargée de la planification familiale au centre médical communal de Ratoma.
Une fois, j'ai dit à un jeune ici de faire le test avant que je ne le planifie. J'ai dit parce que il a su maintenant que sa fille, son partenaire ne va pas tomber enceinte, donc il va la prendre à tout temps. Dès que je savais, il a transpiré. Il était séropositif.
Antibale, un langage des adolescents pour décrire un phénomène de société qui relance le débat sur l'éducation sexuelle en Guinée. Abou Diallo, président du réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction et la planification familiale.
Il y a l'absence totale de l'éducation complète à la sexualité dans les curricula de formation. Il y a également l'absence totale de dialogue entre parents et les enfants sur la sexualité. Ce qui fait que la majorité de ces jeunes-là se lancent dans la sexualité sans pourtant avoir les informations nécessaires.
Les jeunes représentent la majorité de la population guinéenne. Les sujets sur la sexualité restent encore tabous dans plusieurs familles à cause des pesanteurs socioculturelles. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
L'après Tabaski en Côte d'Ivoire, à l'approche de cette fête, on fait venir des milliers de moutons des pays voisins, notamment du Mali et du Burkina Faso, voire du Tchad. Une grande partie du bétail est écoulée avant la Tabaski, mais un grand nombre reste invendu. Que deviennent ces animaux ? D'Abidjan, notre correspondante Aïcha Diarra.
Quelques jours après la Tabaski, la ferveur est retombée sur le marché du mouton ou Galbal, situé entre la commune d'Adjamé et Abobo à Abidjan. Avant la fête, ce marché grouillait de monde.
Bon, le marché a été bon, on ne se plaint pas. Bon, on peut dire le bilan est positif. On a commencé à près de 80 bêtes. Actuellement, on n'a plus rien. Ça, on peut dire que c'est positif.
Madou Konaté a eu plus de chance cette année. Sanogo Mamadou, lui, a encore 13 moutons qu'il doit impérativement liquider.
Bon, la mouton qui reste là, vraiment, on va se débrouiller pour vendre. Parce qu'il y a un mouton qu'on a payé 250 000. Bon, si on a eu 225 000, on peut vendre. Sur ça, 175 000, on peut vendre pour pouvoir garder un peu de sous, pour pouvoir recommencer à zéro encore. Parce que si on laisse ça comme ça, pareil, après la tabaski là, le mouton qui reste là, tu m'as vu vendre, il y a beaucoup de tombes malades. Donc, on dit, c'est comme ça. Si tu veux un peu, tu préfères vendre ton mouton.
À la grande joie des clients de cette période, dont Doumia Zoumana.
Oui, je suis venu acheter parce que, bon, ma tête était au service, on m'a appelé que madame a accouché. C'est une fille. Dieu merci, on est tombé d'accord. Il a laissé à 100 000 francs. De ça, on est descendu jusqu'à. Dieu merci, m'a donné ça à 100.
Venu du Tchad, les moutons de Issa Dibo sont les plus gros spécimens. Il a encore 30 moutons sous la main dont les prix varient de 500 à 900 000 francs CFA.
Voilà, sinon, on connaît un Borani Sara, nous, et Tchad.
Nous sommes venus du Tchad avec ces moutons et nous ne pouvons donc pas retourner avec à cause du coût du transport. Le transport aller fait plus de 2 millions de francs CFA. Donc nous préférons garder ceux-là à Séguéla, trouver quelqu'un qui va les nourrir pour nous jusqu'à l'année prochaine. Contrairement à l'année dernière, cette année, ça n'a pas marché pour nous. Nous n'avons pas pu vendre toutes nos bêtes.
Séguéla est une ville située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Son choix est purement stratégique. Depuis la crise qui survient au nord du Mali, la grande partie du bétail importé par la Côte d'Ivoire vient du Burkina Faso. Aïcha Diarra, Abidjan, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sibudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.